le magazine des Nations Unies.
Bonjour à toutes et à tous. D'abord, les principaux titres du magazine des Nations Unies de ce dimanche 13 novembre 2022. Changement climatique, l'humanité face à un choix, coopérer ou mourir. C'est une alerte du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. C'est à l'ouverture de la COP27 qui s'est tenue à partir du lundi 7 novembre 2022 en Égypte. Le secrétaire général a donc appelé les dirigeants du monde à un pacte de solidarité climatique pour éviter les suicides de l'humanité. Les détails de l'appel d'Antonio Guterres dans cette édition. 3 millions de dollars américains, c'est l'enveloppe que les Nations Unies ont mise sur table dans le projet du parc national de Kahuzi-Biega au Sud Kivu, un projet dont l'objectif est de rendre les 6000 km² de cet espace un milieu à la fois de paix et de développement. Lundi dernier, le ministre du Plan, Christian Mwando Simba, pour le compte de la RDC, et le représentant spécial adjoint et coordonnateur humanitaire en RDC, Bruno Demarquis, ont signé l'acte d'engagement pour ce projet. Enfin, justice transitionnelle en République démocratique du Congo. 15 718 personnes identifiées attendent que justice soit rendue pour que la vérité soit rétablie et que réparation des préjudices causés soit faite. Mardi dernier, le comité de pilotage du projet d'appui à la justice transitionnelle, lutte contre l'impunité et protection des droits de l'homme a tenu sa deuxième réunion du genre. Objectif, faire l'état de lieu de ce projet mis en œuvre par le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme et financé par le gouvernement belge. Voilà pour les titres.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Merci de nous recevoir chez vous. Nous ouvrons cette édition par la COP27. L'humanité a le choix, coopérer ou périr. Il s'agit soit d'un pacte de solidarité climatique, soit d'un pacte suicide collectif. Déclaration du secrétaire général de l'ONU à la première séance plénière officielle de la COP27, lundi 7 novembre en Égypte. Antonio Guterres en a appelé à un pacte historique entre les pays riches et ceux en développement en vue d'éviter une catastrophe climatique. Plus de détails sur l'appel du secrétaire général avec vous, Alain Hung.
Les deux plus grandes économies, les États-Unis et la Chine, ont la responsabilité particulière d'unir leurs efforts pour faire de ce pacte une réalité. C'est notre seul espoir d'atteindre nos objectifs climatiques, a souligné Antonio Guterres dans son discours, rappelant que la planète approchait rapidement des points de rupture pouvant rendre le chaos climatique irréversible. Le chef de l'ONU a déclaré que nous sommes sur une route vers l'enfer climatique avec le pied sur l'accélérateur. Il a ajouté que si la guerre en Ukraine et d'autres conflits ont causé tant d'effusions de sang et de violence et ont eu des impacts mondiaux dramatiques, l'ONU ne peut accepter que l'attention ne soit pas également concentrée sur le changement climatique. C'est la question déterminante de notre époque, c'est le défi central de notre siècle. Il est inacceptable, scandaleux et autodestructeur de le mettre en veilleuse, a-t-il souligné.
Rendre le parc national de Kahuzi-Biega au Sud Kivu un espace de paix et de développement, c'est l'objectif d'un projet cofinancé par le Fonds pour la consolidation de la paix des Nations Unies à hauteur de 3 millions de dollars américains. La signature de ce projet est intervenue lundi 7 novembre 2022 à Kinshasa entre pour le gouvernement, le ministre d'État et ministre du Plan Christian Mwando Simba Kabulo et pour les Nations Unies, le représentant spécial adjoint du secrétaire général et coordonnateur humanitaire en RDC, Bruno Lemarquis. Le reportage d'Honoré Missinga Kalala est rendu par Grace Amzati.
D'une superficie de 6000 km², le parc national de Kahuzi-Biega joue un rôle socio-économique et environnemental important. La richesse, la diversité, l'abondance de sa faune ainsi que de sa flore ont fait classer cet espace sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Depuis plusieurs années, ce parc est malheureusement en dégradation continue à la suite d'une série d'activités anthropiques, notamment la déforestation, le braconnage, les feux de brousse, la récolte non durable des plantes médicinales, les surpâturages et les impacts du changement climatique. Ce qui justifie la mise en place de ce projet par le gouvernement de la RDC et les Nations Unies. Il vise ainsi à créer un environnement propice à une paix durable dans le parc national de Kahuzi-Biega. Il sera mis en œuvre par les fonds d'équipement des Nations Unies en partenariat avec l'Institut congolais pour la conservation de la nature ICCN et les Wildlife Conservation Society. Plus ou moins 600 000 riverains des communautés locales sont ciblés par ce projet, particulièrement les femmes victimes de violences sexuelles et les jeunes issus des groupes armés.
Volet justice, le ministère des droits humains et celui de la justice, l'ambassade de Belgique, le bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme et des acteurs de la société civile ont fait un état de lieu du projet d'appui à la justice transitionnelle, lutte contre l'impunité et protection des droits de l'homme en RDC. C'était mardi 8 novembre dernier à l'ambassade du Royaume de Belgique à Kinshasa et c'était à l'occasion de la deuxième réunion du comité de pilotage de ce projet financé par le gouvernement belge. Jeff Ngoy au Mulunda.
Cette réunion du comité de pilotage vise l'appui aux activités du BCNUDH en matière de justice transitionnelle et de lutte contre l'impunité et de protection des droits humains lancée le 14 juillet 2021. La rencontre a permis de mettre en exergue l'ensemble des résultats atteints jusqu'à ce jour dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet doté d'un budget total de 1,5 million d'euros. À cet effet, il a été noté que le projet a permis de soutenir l'organisation des consultations nationales dans cette province du pays, conduisant au recueil des perspectives de 15 718 personnes sur leurs attentes en matière de droit à la vérité, à la justice, aux réparations et aux garanties de non-répétition. Les consultations qui se poursuivent dans 19 autres provinces du pays permettront ainsi d'informer le travail du comité scientifique nouvellement établi. Les parties prenantes ont salué l'excellente collaboration qui prévaut depuis le lancement du projet et espèrent ainsi que les initiatives nationales consistant à développer et à mettre en œuvre la justice transitionnelle favorisant la paix, la réconciliation et la non-répétition des crimes passés puissent être renforcées.
Le comité de pilotage du projet d'appui aux activités du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme en matière de justice transitionnelle, de lutte contre l'impunité et la protection des droits de l'homme en RDC est présidé par le professeur Luzo Lobambi, ancien ministre de la Justice et ancien conseiller spécial de l'ex-président Joseph Kabila en charge de la lutte anti-corruption. Créer un forum où la voix de la femme en tant que partie prenante au processus de paix en RDC peut être entendue, c'est l'un des objectifs d'une journée de réflexion sur la mise en place d'un groupe consultatif de femmes sur la réforme du secteur de sécurité. C'était organisé le 27 octobre dernier à Kinshasa. Une initiative du ministère du Genre, Famille et Enfants en partenariat avec l'ONG des Congo Autrement et la MONUSCO. Cette séance a permis d'identifier des obstacles à l'intégration et à la prise en compte du genre dans la réforme du secteur de sécurité, mais aussi d'avoir une masse critique qui peuvent influencer les décisions prises en cette matière. Le point avec Priscille Kabuya.
Cette journée de réflexion avait pour but de créer un groupe consultatif de femmes de la réforme du secteur de sécurité RSS. Le forum devait aussi montrer l'importance et la connaissance du genre des femmes dans la RSS. Comprendre le potentiel de la transformation et de pouvoir tirer parti de la voix des femmes en tant que moteur du changement en ce jour où il n'y a pas eu de progrès significatif en termes de participation de femmes dans ce processus. En ce moment où la RDC est confrontée à des situations de conflit et à un processus de recherche de la paix, il devient nécessaire que la femme soit davantage impliquée dans la participation de la politique de sécurité. Un extrait de Madame Niobi Ubianoudjou, chef de la réforme du secteur de sécurité à la MONUSCO.
Chaque fois quand il y a des problèmes de sécurité, on pense que c'est les hommes, mais beaucoup plus, c'est la femme qui est la victime. Donc, il faut que la femme parle maintenant, quitter le côté des victimes et devenir les gens qui construisent. Parce que je sais que la femme a beaucoup à contribuer pour la réforme du secteur de sécurité. Donc, c'est ça les nouveaux groupes, c'est pour encourager les femmes pour chercher l'expertise sur ce domaine.
Madame Irène Essambo, ministre déléguée aux affaires sociales et aux actions humanitaires, chargée de personnes vivant avec handicap, a également pris la parole.
Ici, si nous voulons parler de ces groupes, en premier lieu, ayons l'idée de l'expertise. La thématique, c'est la réforme du secteur de sécurité. C'est quoi la réforme du secteur de sécurité? À quoi cela doit nous amener? La sécurité, elle est très stratégique. Et parler des questions sécuritaires, ça vous amène aussi à une attitude à adopter. Vous n'avez pas la sécurité, votre politique va être en train de flotter. Et c'est pour cela que je mets un accent particulier sur la gouvernance. Oui, de vous dire que c'est vraiment une thématique très importante et la participation de la femme dans cette thématique, elle est indispensable.
Il y a eu également cet appel à la femme congolaise de la fondatrice de l'ONG de Congo Autrement, Madame Matiponga.
Nous sommes de valeur ajoutée pour la réforme du secteur de la sécurité de ces pays. Nous voudrions avoir de femmes dans l'armée. Nous voudrions avoir de femmes dans la police nationale. À l'ANR, nous voudrions voir plusieurs femmes. Il n'y a pas que l'ANR, il y a la justice, il y a plusieurs domaines de sécurité. Je lance un appel à toutes les femmes de la République démocratique du Congo. Levons-nous, soudons-nous les mains. Nous allons mener de plaidoyer auprès du chef de l'État. Nous allons mener de plaidoyer auprès du Premier ministre, auprès des autorités compétentes pour que nous ayons une place de considération dans ces pays.
Quelques résultats attendus après la mise en place de ce groupe, des recommandations pour l'avancement de la RSS en RDC, y compris l'élaboration d'une politique de sécurité nationale et d'une stratégie nationale de la RSS, une feuille de route pour la participation active des femmes à la RSS en RDC, plaidoyer auprès des décideurs de haut niveau en matière de RSS en faveur d'une plus grande implication des femmes.
Merci à vous, Prissé Kabuya.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Épé Lubile 1, c'est une école primaire du village en Pungwe, près de Kalemi, dans la province du Tanganyika. Elle a été inaugurée lors d'une mission conjointe effectuée du 24 au 28 octobre 2022 par les bailleurs de fonds de l'UNICEF. C'est un ouvrage construit grâce à l'appui du Fonds mondial des Nations Unies pour l'éducation, éducation Cannot Wait, l'UNICEF et le Royaume-Uni. Cette école entre dans l'objectif global du programme visant à soutenir la volonté du gouvernement de mettre en place une éducation gratuite dans toute la RDC. C'est autour de ce projet que Laura Mazal, directrice de la coopération à l'ambassade du Royaume-Uni, a répondu aux questions de Jeff Opela.
Bonjour Mazal, quel intérêt portez-vous à ce programme de Education Cannot Wait?
Alors, Education Cannot Wait, éducation sans délai, est fondamentale pour nous. Nous sommes un des bailleurs qui a cofondé avec d'autres ce fonds. Pourquoi ? Parce que c'est à l'intersection entre l'éducation, l'humanitaire et la protection des enfants. Et ça, c'est fondamental pour le futur de nombreux pays.
Vous êtes deuxième plus grand partenaire mondial qui supporte le programme d'Education Cannot Wait. Et cela va durer combien de temps?
Ah, donc ça fait plusieurs années que Education Cannot Wait a été fondé. Nous avons contribué plus de 100 millions de dollars jusqu'à présent à ce fonds, qui opère dans plusieurs pays, mais qui opère en RDC, à la fois au Tanganyika et dans le nord Ubangi.
Jusqu'où comptez-vous accompagner Education Cannot Wait?
Donc, les efforts dans le secteur de l'éducation sont pour nous fondamentaux en RDC. À la fois l'éducation et la réponse aux besoins humanitaires. Mais nous avons également une priorité particulièrement sur la protection, l'autonomisation des femmes et des filles. Et donc, des projets comme celui de Education Cannot Wait que nous avons vu au Tanganyika fait vraiment partie de nos priorités.
Parfois, propose-t-on les filles? Pourquoi seulement les filles et les garçons?
Pas que les filles. Nous travaillons également avec les garçons parce que les garçons sont aussi pas souvent victimes de violences, pas que les filles. Mais les filles, c'est important pour plusieurs raisons, parce que c'est important pour la prochaine génération d'enfants, parce qu'on sait que quand une fille arrive au secondaire, son enfant a moins de chances d'être malnutri. On sait que quand une fille arrive au secondaire et peut ensuite poursuivre des études, sa communauté sera renforcée d'un point de vue social, d'un point de vue économique. Donc l'éducation des filles est importante, mais on travaille également avec les garçons.
Conjointement, vous venez d'inaugurer une école à Tanganyika. Et quelle est votre impression et qu'est-ce que vous avez trouvé de meilleur là-bas à Tanganyika?
Ah, alors, beaucoup de choses très intéressantes à Tanganyika Academy. Nous avons rencontré des enfants pour qui l'école représente un véritable espoir. Des enfants qui sont sortis de groupes armés récemment et qui ont partagé leurs histoires avec nous et pour qui l'éducation représente un véritable chemin vers l'avenir. Ils veulent être ministres, docteurs, couturiers, toutes sortes. Et l'éducation et l'inauguration de cette école est vraiment fondamentale pour les aider vers leur futur.
Voilà Laura, nous sommes arrivés à la fin de notre entretien. Aurez-vous un message particulier à adresser aux partenaires comme vous et aux bénéficiaires de cette école?
Alors aux autres partenaires, je dirais que bien sûr, l'éducation est fondamentale pour le futur de la RDC, le futur des communautés, le futur des enfants. Et ce que je dirais à un enfant congolais, c'est que le droit à l'éducation, à l'accès à l'éducation, est un droit fondamental. Ainsi que le droit d'aller dans une école qui est protégée, qui est sécurisée, où ils ne vont pas être victimes de violences. Et c'est important pour leur avenir, pour celui de leur communauté et pour celui de la future génération de Congolais.
Merci Madame Laura d'avoir répondu à nos questions.
Merci beaucoup.
Nos informations plus brefs à présent. Lundi dernier, 7 enfants libérés de groupes armés ont été mis à la disposition de la MONUSCO par le commandement du secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord de FARDC. Nous sommes à Beni, dans la province du Nord Kivu. 6 de ces enfants, des garçons, proviennent du groupe Maïmaï Kiandenga. Le 7e, une fille de 16 ans, retrouvée dans les rangs des ADF. Les sources précisent que la MONUSCO a à son tour recouru à une ONG locale, partenaire de l'UNICEF, pour une prise en charge psychosociale avant leur réintégration communautaire. Autre nouvelle, après 21 ans d'arrêt à la suite de l'assassinat de ses 6 employés à Djougou en Ituri, le Comité international de la Croix-Rouge, CICR, a annoncé la reprise des activités pour 2023. C'est le chef sortant de la sous-délégation du CICR Bounia, Marc Soupa, qui l'a affirmé lundi 7 novembre 2022. Ce qui s'est passé en 2001, nous avons perdu 6 de nos collègues, ça nous a pris 21 ans pour revenir travailler dans les territoires de Djougou. Aujourd'hui, tout est mis en place pour que nous puissions retourner travailler en territoire de Djougou en 2023, a déclaré le chef sortant de la sous-délégation du CICR Bounia. Pour refermer cette page, direction Genève pour lancer cette alerte avec l'Organisation internationale du travail OIT sur la détérioration du marché mondial de l'emploi. Selon l'OIT, le marché mondial de l'emploi va se détériorer de manière significative au cours de ces derniers trimestres de l'année avec un déficit de 40 millions d'emplois à temps plein. L'organisation pointe du doigt les conséquences de la guerre en Ukraine et aussi l'impact du resserrement de la politique monétaire sur la consommation.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
L'invité de ce dimanche, c'est Bruno Lemarquis, coordonnateur humanitaire des Nations Unies en République démocratique du Congo. Il évoque la situation humanitaire dans le territoire de Rutshuru où se déroulent des combats entre les FARDC et le M23. Bruno Lemarquis répond aux questions de Grace Hamzati.
Bruno Lemarquis, bonjour.
Bonjour, Radio Okapi.
Quelle est votre perception de la situation humanitaire actuelle dans la province du Nord Kivu et particulièrement dans les territoires des Rutshuru?
Alors merci Radio Okapi, bonjour aux auditeurs de Radio Okapi. En ce qui concerne la situation, surtout dans le territoire du Rutshuru, elle est très préoccupante. Vu ce qui se passe, il y a eu un grand nombre de personnes qui ont été contraintes de quitter leurs habitations, de quitter leurs maisons dans les derniers jours et donc qui se trouvent actuellement sur les axes routiers vers différentes directions, notamment vers Goma, qui se trouve dans les églises, qui se trouve dans les écoles, qui se trouve dans des sites de déplacés. Avec les chiffres que nous avons pour le moment, nous pensons qu'environ 50 000 personnes se sont déplacées la semaine dernière. Donc c'est un chiffre considérable qui se rajoute aux quelques 186 000 personnes qui avaient déjà été contraintes de fuir à cause d'affrontements armés dans le territoire de Rutshuru depuis le mois de mars. Ce qui amène le total des déplacés internes dans le territoire à plus de 400 000. Et pour mémoire, je rappelle que le nombre de déplacés internes dans la République est de 5,7 millions, un chiffre considérable qui est le plus grand en Afrique. Il faut aussi, dans ces situations, La question des violences sexuelles est toujours critique, donc il faut faire très attention à ça et prendre toutes les mesures de précaution, de même que celle de l'impact psychologique, y compris sur les enfants. Un dernier aspect, ce sont les risques sanitaires liés à cette crise. Comme vous le savez, il y a actuellement une épidémie d'Ebola non encore contrôlée en Ouganda, donc nous sommes aussi préoccupés par les mouvements de population entre la RDC et l'Ouganda et retour, compte tenu des risques de propagation éventuelle. Donc il faut absolument faire tout ce qui est possible pour éviter la propagation, mais également des risques de choléra. Il y a déjà des cas déclarés avec les personnes déplacées récemment.
Quelles sont vos priorités en tant que coordonnateur humanitaire en République démocratique du Congo, en lien justement avec ce qui se passe dans la province du Nord Kivu?
Tout d'abord, pour dire, et les partenaires humanitaires sont déjà très 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 mobilisés, ils se réorganisent pour pouvoir apporter l'appui où les gens se déplacent. Donc les acteurs humanitaires nationaux, internationaux sont pleinement mobilisés. La notion de coordination est absolument essentielle pour que l'aide aille où elle est nécessaire. Et peut-être en profiter aussi pour dire que un des défis auxquels on fait face également, c'est la question des ressources, puisque cette crise du Rutshuru s'ajoute à de nombreux autres besoins dans le pays. Oui, comme vous le savez très bien, donc les défis humanitaires en Ituri, au Sud Kivu, au Tanganyika, à Maïdombe, au Kwilu. Donc la famille humanitaire, la réponse humanitaire est également très occupée. Donc il ne faut pas déshabiller Paul pour habiller Pierre. Pour le moment, le plan de réponse, ce qu'on appelle le plan de réponse humanitaire pour la RDC 2022, n'est financé qu'à moins de 40%. Donc j'appelle donc vraiment une mobilisation des ressources et des efforts, tant au niveau national, avec des ressources domestiques, qu'au niveau international. Et j'en appelle notamment à la générosité et à la solidarité vis-à-vis de la RDC, des bailleurs de fonds, afin de continuer à soutenir l'action humanitaire dans le pays.
Quel message avez-vous à donner pour une bonne prise en charge des personnes déplacées dans l'est du pays et particulièrement dans le nord Kivu et surtout à toute la population de l'est qui attend beaucoup de vous, tout comme du gouvernement congolais?
Tout d'abord, j'aimerais inviter tous les acteurs concernés à respecter leurs obligations en vertu du droit international humanitaire et des droits de l'homme, notamment à épargner les civils, à protéger les civils, à protéger les infrastructures civiles, par exemple les centres de santé. Les civils ne doivent pas être une cible, ils doivent être vraiment épargnés. Les travailleurs humanitaires également, qui sont là pour aider, ne doivent pas non plus être des cibles. Ensuite, un autre message, c'est pour dire que les humanitaires ont besoin eux-mêmes pour faire leur travail, pour apporter l'assistance. Ils ont besoin de conditions minimales de sécurité. De ce fait, tous les acteurs concernés par ce conflit doivent faciliter un accès humanitaire sûr et sans entrave pour qu'on puisse atteindre les personnes dans le besoin, où qu'elles soient, les personnes blessées, les enfants, etc. Et peut-être un dernier mot, l'assistance humanitaire est vraiment critique, mais elle n'est pas la solution au problème humanitaire. Comme on dit, l'aide humanitaire n'est pas la solution au problème humanitaire. La solution au problème humanitaire, elle vient notamment du rétablissement de la sécurité, du rétablissement de la paix dans l'est de la République démocratique du Congo et de tous les efforts à mettre en œuvre au niveau du développement durable, au niveau de la réalisation des objectifs du développement durable pour que l'est du Congo puisse vivre dans la paix et que les gens puissent vivre une vie tout à fait normale et donner un futur meilleur à leurs enfants.
Bruno Le Marquis, merci.
Merci beaucoup et merci à tous les auditeurs de Radio Okapi.
Lutte contre la désinformation et les discours de haine en Ituri, des dizaines de journalistes et des acteurs de la société civile ont bénéficié d'une formation organisée par la section de l'information publique de la MONUSCO. But de cette formation, combattre la désinformation et le discours de haine distillés à Mahagi et à Aru Centre, situés respectivement à 180 et 300 kilomètres au nord de Bunia. Isaac Rimoyope.
Les participants étaient outillés sur les notions de la désinformation et des discours de haine véhiculés à travers les réseaux sociaux et les médias et leurs conséquences sur la société, notamment les violences, le manque de cohésion sociale et même la guerre. C'est le chef de l'information publique de la MONUSCO, en Ituri. Ces deux fléaux gangrènent la société. Jean-Toby Okala.
Il y avait un double objectif. Vous donner des conseils pour mieux faire votre métier et ensuite des outils, vous les donner afin que vous ne tombiez pas dans la propagation de la désinformation et des discours de haine qui sont véritable fléau, n'est-ce pas, qui gangrène nos sociétés modernes.
De leur côté, les participants ont fait part de leur manque de formation et se sont engagés à corriger leurs erreurs pour la recherche de la paix. L'un d'eux, Eliezer Pitua.
C'est important que la radio joue pleinement son rôle dans le rétablissement de la paix et pour ce faire, il faut qu'on puisse connaître effectivement comment informer objectivement le public de manière à ne pas pouvoir mettre la population dans une situation où on peut encore creuser des qui était déjà en train de se cicatriser.
Bounia Jean-Claude Loki, Dile Radio Capi.
Magazine des Nations Unies,
Question aux Nations Unies.
Monsieur Renaud Agwangasi, coordonnateur des affaires civiles de la MONUSCO Beni-Lubero, avait conduit une délégation de la mission dans la chefferie de Ouattalinga en prévision de la fermeture de la base de la MONUSCO. Une question lui a été posée sur l'objectif de cette mission. Suivez sa réponse.
Effectivement, comme vous le savez, les discussions sont avancées pour une fermeture probable de la base de Kamango. Et la semaine passée, nous avons envoyé une mission d'évaluation ici pour essayer de faire un assessment et identifier ce qu'on pourrait faire pour renforcer les mesures d'alerte communautaire et renforcer la collaboration avec les différents acteurs avant la fermeture effective de la base. Donc aujourd'hui, la mission composée des collègues de droits de l'homme, Child Protection, TDR et également la composante police de la mission. Nous sommes venus ici en fait pour organiser un atelier de renforcement des capacités avec l'ensemble des acteurs. Il y a la police, il y a UFRDC, les leaders de la communauté, les groupes de jeunes et de femmes, mais également les membres du LPC pour rappeler un certain nombre de principes en ce qui concerne les early warning et discuter de comment est-ce que nous pouvons continuer notre collaboration.
Le magazine des Nations Unies.
Magazine des Nations Unies. Le magazine des Nations Unies, tout sur les faits saillants des agences du système des Nations Unies. Chaque dimanche à 8h30 et en rediffusion à 19h05.
Quatre dates à retenir pour la semaine qui commence. D'abord le 14 novembre, journée mondiale du diabète. 16 novembre, journée mondiale de la tolérance. 19 novembre, journée mondiale des toilettes. Et enfin, le 20 novembre, c'est la journée de l'industrialisation de l'Afrique. C'est la fin de cette émission que vous pouvez retrouver sur le site www.radiocapi.net, Radio Capi en un seul mot. Merci de nous avoir suivis. Merci aussi à Bob Landou qui en a assuré la coordination technique. Je suis Babel Pongo Massimango. C'est avec un grand plaisir, comme d'habitude, que vous ai présenté cette émission produite, coordonnée et réalisée par Honoré Missinga Kalala. Merci de rester à l'écoute de la Radio de la Paix. Quant à l'équipe du magazine des Nations Unies, elle vous fait un nouveau rendez-vous dimanche prochain.